Chapitre 14. Aucune émotion n'était visible sur le visage d'Émile lorsque le lendemain, vers 10 heures du matin, il se rendit avenue de Malakoff. La différence de traitement entre son frère et lui était si grande, l'injustice dont il avait souffert si évidente, qu'il s'apprêtait à affronter les Villemur avec la même tranquillité d'âme qu'un innocent, un juge d'instruction. Pourtant, lorsqu'il arriva devant la porte de l'appartement, il se troubla. La fragilité des armes dont il disposait lui était apparue. Toujours comme un innocent, mais qui verrait cette fois l'accusation dont il est l'objet, maintenue malgré ses protestations, il eut conscience que la vérité est peu de chose quand elle est tout ce que l'on possède pour lutter contre le pouvoir établi. Émile n'était pas sentimental. Il chassa cette pensée et ce fut en homme qui ne se laissera pas intimider qu'il sonna. Au valet de chambre qui lui ouvrit la porte, il demanda à parler à Madame Ettlinger de la part d'Émile Ettlinger. Le domestique le fit entrer dans le vestibule, puis, après l'avoir prié d'attendre, alla prévenir Annie. Quelques instants après, il revint annoncer que Madame Ettlinger était sortie. « Dans ce cas, dit Émile, je voudrais parler à Monsieur Villemur. » Le valet de chambre disparut de nouveau, mais, au lieu d'avertir son maître, il retourna chez Annie, qu'il avait prié de la tenir au courant de ce que ferait le visiteur. Émile se trouvait depuis un instant dans la bibliothèque où il avait été introduit, parce que c'était la pièce la plus isolée, lorsque Madame Ettlinger l'y rejoignit. À sa vue, il s'inclina légèrement, sans prononcer un mot. « Je ne m'explique pas votre visite. » J'ai à vous parler de choses très importantes, dit Émile avec l'ardeur déplacée d'un avocat plaidant pour un comparse. Je n'ai pas le temps de vous écouter. Il le faut pourtant, madame. Ma mère et moi, nous ne pouvons plus vivre comme nous le faisons. Nous avons fait des sacrifices. Quels sacrifices? Vous croyez qu'il ne nous a pas fallu en faire pour ne rien vous demander? Mais aujourd'hui, nous sommes à bout. Annie fut tellement surprise par ces paroles qu'elle ne put s'empêcher de répondre « Je ne suis la cause d'aucun de vos sacrifices. Je ne comprends absolument pas ce que vous voulez dire. » « Nous sommes dans la misère, madame, et vous en êtes la cause, ainsi que mon frère. S'il ne nous avait pas continuellement trompés avec ses promesses, nous aurions agi plus tôt. » Depuis qu'il était en présence de Madame Ettlinger, Émile n'avait pas jeté un regard sur les livres, les tapisseries, les bustes qui se trouvaient dans la pièce, de façon à montrer à son interlocutrice que le luxe qui l'entourait ne faisait aucune impression sur lui. S'il n'avait pas été élevé par Annie, il n'en était pas moins le fils de Jean Melchior. La distinction étant une qualité innée, il n'y avait pas de raison qu'il en eût moins que son frère. « Ma mère, continua-t-il sur un ton d'égal à égal, n'a jamais travaillé. Ce n'est pas à son âge qu'elle commencera. Elle n'est pas en très bonne santé. Elle aurait besoin de grand air, de tranquillité. » Si Jean-Noël était avant tout soucieux de paraître, Émile, qui prétendait, lui, savoir ce qu'était la véritable fortune et qui ne retenait des biographies de banquiers que les anecdotes relatives à leur apparente pauvreté, ne l'était, à la grande fierté de sa mère, que de discerner si une dépense ne dépassait pas les moyens de celui qui la faisait. « Je ne vois vraiment pas pourquoi vous me dites cela à moi. » Parce que si vous n'étiez pas entré dans la vie de mon père, si vous ne l'aviez pas empêché de faire son devoir alors qu'il en avait le désir, nous ne serions pas dans la situation où nous sommes. D'ailleurs, vous le savez très bien, continua Émile, qui s'appliquait à donner à ses phrases un aspect plus écrit que parlé, m'obligerez-vous à vous rappeler la promesse que vous avez faite à M. Ettlinger? Quelle promesse? Nous possédons toujours la lettre. Je l'ai sur moi, je peux vous la montrer. Dans cette lettre, que mon père écrivait à ma mère quelques jours avant sa mort et dont nous considérons le texte comme l'expression de ses dernières volontés, il disait que s'il venait à disparaître, vous vous engageriez à nous remettre une somme qui ne serait pas inférieure à 50 000 francs de l'époque. Au lieu de cette somme, vous nous avez fait l'aumône de 5 000 francs. Je ne me suis jamais engagée à cela, dit Annie, pour l'excellente raison que je n'aurais pas su où trouver cette somme. Mais Annie ne demanda pas à voir la lettre. elle avait soupçonné Jean Melchior de lui cacher certaines dépenses, de fréquenter des gens qu'il avait jugés indignes d'introduire chez lui, mais parmi lesquels il s'était plu cependant. Elle avait fermé les yeux pour ne rien apprendre qui eût pu diminuer l'idée qu'elle se faisait de son mari, idée à laquelle elle tenait, d'autant plus que c'était elle qui lui avait fait tout quitter. Aujourd'hui, au milieu des siens, elle redoutait encore plus qu'avant la révélation d'elle ne savait quelle tromperie. Tous ceux qui avaient connu Jean Melchior lui paraissaient comme les témoins d'une faute ancienne. Devant eux, elle tremblait que ce qu'elle avait de plus cher, le souvenir d'un amour embelli par l'éloignement, ne lui fût enlevé. « Je viens donc vous demander, reprit Émile, de tenir vos engagements. »« Quels engagements? Je n'ai plus d'argent. Tout ce que je possédais, nous l'avons dépensé, votre père et moi. Laissez-moi, partez, je vous prie. J'ai mérité de finir ma vie dans la paix. »« Que donne la richesse? Mais rien n'est à moi ici, rien. » C'est trop facile, continua Émile, avec cette vulgarité qui reparaissait dès qu'il cessait de s'observer. Maintenant que vous avez brisé la vie de ma mère et la mienne, vous vous moquez de nous. Cette fois, Annie garda le silence. Elle sonna. Le valet de chambre qui avait introduit Émile parut presque aussitôt. Reconduisez, monsieur, dit Madame Ettlinger. Mais le domestique eut beau désigner respectueusement la porte au visiteur, celui-ci ne bougea pas. « Je ne m'en irai pas. » Annie fit un signe au valet de chambre. « Monsieur, veut-il me suivre ?»« Je parlerai d'abord à votre père, » fit Émile en élevant la voix. « Mon père ne vous recevra pas. » Madame Ettlinger venait à peine de prononcer cette parole que M. Villemur parut sur le seuil de la porte. Il s'avança lentement en examinant le jeune homme des pieds à la tête. « Vous vouliez me parler ?» lui demanda-t-il. « Oui, monsieur, je voulais vous montrer une lettre de mon père à ma mère. » En disant ces mots, il tira son portefeuille de sa poche. Mais à ce moment, Annie s'interposa entre Émile et M. Villemur. « Non, père, je t'en supplie, ne lis pas cette lettre. Ce sont des mensonges odieux. » Durant quelques secondes, M. Villemur dévisagea le jeune homme, sans mépris, sans indulgence, comme s'il voulait pénétrer ce qui se passait en lui. Puis, sans ajouter un mot, il prit sa fille par le bras, comme s'il avait besoin d'elle pour le soutenir, et quitta la pièce. Après le départ d'Émile, Annie, qui s'était maîtrisée jusque-là, se trouva mal. M. et Mme Villemur l'étendirent sur un divan, lui firent respirer des sels. Quand elle recouvra son esprit, refusant les soins que ses parents voulaient continuer à lui donner, elle alla s'enfermer dans sa chambre. Il lui apparut alors que Jean-Noël était la cause indirecte de ce qui venait d'arriver. Il était bien capable de s'être vanté de la sollicitude qu'Annie lui avait témoignée quelques jours auparavant. Chaque fois qu'elle avait agi dans l'intérêt de quelqu'un, elle avait dû s'en repentir. Son beau-fils avait-il pris sa générosité pour de la faiblesse ? Comme Émile était après tout le frère de Jean-Noël, celui-ci lui avait sans doute conseillé de profiter des bonnes dispositions de Madame Ettlinger. Finalement, elle téléphona à l'étude de Maître Préfil. Son beau-fils étant absent, elle dut se contenter de demander qu'on le priât de passer la voir dès qu'il rentrerait. Si Jean-Noël ne s'était pas trouvé à l'étude quand sa belle-mère l'avait appelé, c'était qu'à la même heure, il se rendait rue Mouton-Duvernay avec l'espoir de retenir son frère. La veille, en rentrant rue Laugier, il avait été pris d'inquiétude. Il avait eu beau feindre de ne rien redouter d'Émile, il n'en avait pas moins redouté ce qui était justement arrivé. Madame Mourier l'avait attendu avec cette impatience qu'elle ne manquait jamais de manifester quand elle savait que Jean-Noël s'entretenait avec sa mère ou son frère. Laure ne pouvait les supporter. Ils étaient aussi paresseux l'un que l'autre. « Ton frère t'a encore demandé de l'argent, » avait-elle dit avant que Jean-Noël eût ôté son pardessus. Peu après que Madame Mourier avait laissé Jean-Noël en compagnie d'Émile, en bas de la rue de Clichy, elle avait pris un taxi. Plus tôt elle serait rentrée, plus longue serait l'attente et plus violente la scène qu'elle ferait à Jean-Noël. Ce qu'elle ne pardonnait pas à Émile, ce n'était pas d'être pauvre, ni d'avoir un pardessus déchiré, ni de manquer d'attrait, mais de n'avoir pas pour elle cette admiration qu'elle lisait, disait-elle, dans les yeux de certains passants. Il l'eût considérée comme une femme indigne d'être reçue dans une famille, puisqu'il ne parlait que de famille, qu'elle n'y eût attaché aucune importance, si, en revanche, il avait montré un certain trouble en sa présence. Or, Émile n'avait jamais même paru s'apercevoir qu'elle était une femme. Cette grossièreté, comme elle appelait l'indifférence d'Émile, elle l'avait fait retomber sur Jean-Noël de la manière suivante. Il y avait deux hommes en lui, celui qui, par son éducation, par l'affection que lui portait sa belle-mère, par les liens qui l'unissaient au Villemur, avait su la séduire, et celui moins brillant, qu'il était bien le fils de Madame Mercier et le frère d'Émile, dont elle devait s'accommoder à présent. « J'ai agi jusqu'aujourd'hui, avait-elle dit, comme personne ne l'aurait fait à ma place. J'ai fait tout ce que tu as voulu. Je me disais que ce n'était pas ta faute si tu avais une famille pareille. Mais je ne peux plus. S'il me faut encore recevoir ces gens, j'aime mieux que tu prennes une chambre à l'hôtel. Ils me rendent malade. Ton frère devrait tout de même savoir que si tu lui viens en aide, c'est grâce à moi, que si tu ne m'avais pas, tu serais bien en peine de lui donner quoi que ce fût. Et je suis de trop, et je vous gêne, Émile et toi, dans vos conversations. C'est incroyable !» Ces tirades, dont Madame Mourier faisait un grand usage, plongeaient Jean-Noël dans un mutisme qui durait parfois plusieurs jours et pendant lequel il envisageait de disparaître sans rien dire. Ce soir-là, pourtant, il n'avait prêté aucune attention à ce flot de paroles. Ce qu'il craignait était beaucoup trop grave. Émile n'allait-il pas mettre sa menace à exécution? Et plus la soirée s'était avancée, plus l'inquiétude de Jean-Noël avait grandi. Madame Mourier, dont les colères ne duraient pas, était redevenue gaie et aimante. De temps en temps, Jean-Noël l'avait regardée. Il s'était surpris à la considérer avec sympathie. Ne l'aimait-elle pas, au fond? Il avait alors songé à lui raconter ce qui s'était passé entre Émile et lui. Il avait pourtant hésité. Depuis plusieurs mois déjà, il avait cessé de lui confier ses pensées, de manière à faciliter la séparation qu'il projetait. Mais la peur qu'Émile ne se rendît à venue de Malakoff, au moment où Annie venait de lui témoigner tant d'affection, le tourmentait trop. Finalement, il n'avait pas pu résister au besoin de parler. « Je ne t'ai pas dit qu'Émile veut aller voir ma belle-mère. »«
Ce n'est pas possible !» s'était écriée Madame Mourier.
On eût dit que les griefs qu'elle avait contre Ernestine Mercier et son jeune fils n'avaient jamais existé.
« Émile ne fera pas cela, ta mère l'en empêchera. »«
J'en doute. »«
Ta mère, malgré tout, est une brave femme. Et Émile, crois-tu vraiment qu'il soit si méchant ?»
Madame Mourier se métamorphosait dès qu'on lui avouait un souci. Elle s'était offerte à aller voir Émile. Jean-Noël lui eut permis qu'elle se fût rendue rue Mouton du Vernet, comme si jamais il n'y avait eu le moindre désaccord entre les Mercier et elle. La seule fois qu'elle avait rencontré Annie, celle-ci lui avait parlé comme à une personne de bon sens dont l'influence ne pouvait être qu'heureuse sur Jean-Noël. Ne fallait-il pas qu'elle fût digne de cette confiance ? Finalement, elle avait conseillé à Jean-Noël d'aller voir sa mère le lendemain pour lui faire comprendre que si elle laissait Émile agir, ce n'était pas lui, Jean-Noël, qui en souffrirait, mais Madame Mercier elle-même, car elle avait tout à gagner à ce que son fils aîné demeurât en bon terme avec Madame Ettlinger. Le matin, Jean-Noël avait téléphoné à Maître Préfil pour l'avertir qu'il ne viendrait pas à l'étude. Puis, vers 10 heures, il s'était rendu rue Mouton du Vernet. Cette démarche, il la faisait à contre-cœur. Il lui répugnait, après l'attitude arrogante qu'avait prise son frère, de le revoir. Mais, après avoir demandé des conseils à Madame Mourier, il lui était difficile de ne pas les suivre. Il y avait une demi-heure à peine, elle lui avait encore fait d'ultimes recommandations. Quand il arriva chez sa mère, Émile était déjà parti. Jean-Noël ne laissa pas paraître sa contrariété. Madame Mercier était en train d'allumer un petit fourneau qui se trouvait devant la cheminée. Un paravent séparait les deux lits.
« Mais on ne sait pas qu'il existe, disait-elle souvent, et tu imagines les ragots qu'on peut faire sur mon compte. On a été jusqu'à raconter qu'Émile, tu m'entends, ce brave petit Émile, était mon amant, que nous vivions en ménage, que je le martyrisais. Ah, ton pauvre père, s'il savait cela !» Où est Émile ? Demanda Jean-Noël, comme si seulement de la curiosité le poussait à poser cette question. Je croyais que tu l'avais vu hier soir, répondit Madame Mercier, comme si elle soupçonnait Émile de lui avoir menti en lui affirmant qu'il avait rencontré son frère, bien qu'elle fût convaincue qu'il avait dit la vérité. En effet, je l'ai vu. Ah, j'aime mieux cela. Cela ne m'aurait pas fait plaisir qu'il m'eût menti. Mais dans ce cas, il a dû te dire qu'il voulait aller chez les Villemur. Aujourd'hui, déjà ? Madame Mercier fit un geste qui signifiait qu'avec Émile, on ne pouvait jamais savoir à quoi s'en tenir. Quand il avait une idée, il était difficile de la lui ôter. Depuis quelques mois déjà, il parlait de faire une visite à Madame Ettlinger. L'avait-il faite ? Madame Mercier l'ignorait. Si elle n'avait aucune influence sur ce garçon, n'était-ce pas un peu la faute de Jean-Noël ? Comment une femme seule, déjà vieille, pouvait-elle gouverner un jeune homme qui ne trouvait auprès d'elle que tout ce qui est contraire à son âge, plainte, tristesse, inquiétude. Pouvait-on en vouloir à Émile de chercher à s'échapper ? Il s'était même certainement rendu avenue de Malakoff. Et comme si elle avait déposé une plainte, laquelle suivait déjà son cours, Madame Mercier leva les bras en signe d'impuissance. « Es-tu sûre de ce que tu dis ? » demanda Jean-Noël avec anxiété. « Sûre, non. Il a peut-être été se promener. Il ne me dit jamais ce qu'il fait. Je voulais justement avoir une conversation avec vous deux. Il sera probablement rentré avant midi. Veux-tu que je te fasse une tasse de café en attendant ? Merci, ce n'est pas la peine. » Jean-Noël s'assit. Chaque fois qu'il se rendait rue Mouton-du-Vernay, une impression pénible l'envahissait, celle d'être malgré tout lié par le sang à cette misère. En même temps qu'il éprouvait un mélange de honte et de pitié, il espérait qu'un jour sa mère et son frère ressembleraient à tout le monde. S'il avait eu de l'argent, s'il avait pu en gagner suffisamment, tout eût été très simple. Il eût acheté une maison à sa mère, dans le Midi, si toutefois elle avait supporté le Midi, car elle n'avait jamais été bien nulle part, et il n'eût plus entendu parler d'elle, ni d'Émile. Ce matin-là, Jean-Noël ne roula pas de semblables projets. Il était tellement irrité qu'il ne se sentait aucun point commun avec sa mère. N'était-il pas incroyable qu'on s'en prît toujours à lui ? Il en avait assez. Quand Émile rentrerait, il lui dirait ce qu'il pensait de sa conduite. « Si je n'avais jamais rien fait pour eux, pensa-t-il, je le comprendrais. Mais n'avait-il pas fait tout ce qu'il avait pu ? Ce n'était pas sa faute s'il n'avait plus d'avantages. » Et ce qui augmentait encore sa colère, c'est que s'il n'avait pas existé, Émile n'eût sans doute pas songé à se rendre chez les Villemur. Lui seul, au fond, était la raison de cette démarche. C'était parce qu'on savait qu'il était toujours en relation avec Annie qu'on se permettait de le faire. On le détestait et en même temps on se servait de lui. Il était près de midi lorsqu'il entendit des pas dans l'escalier. Puis la porte s'ouvrit. C'était Émile. Il ôta posément son pardessus, l'accrocha dans un coin. On devinait qu'à cause de l'exiguïté du logement, il avait pris certaines habitudes d'ordre, sans lesquelles il eût été impossible de vivre dans un espace aussi restreint. Sans paraître tenir compte de la présence de Jean-Noël, il s'approcha de sa mère, la salua respectueusement, de manière à montrer à son frère que, s'il n'avait pas bénéficié des faveurs d'Annie, il n'en avait pas moins été aussi bien élevé que lui. « Jean-Noël t'attendait, » lui dit Madame Mercier. Émile se tourna vers son frère et lui fit un geste, comme s'il venait de le saluer il y avait un instant. « Tu viens de chez les Villemur ?» demanda Jean-Noël, sans paraître attaché d'importance à cette question. « Oui, » répondit Émile, en prenant dans un tiroir un paquet de cigarettes qui s'y trouvait depuis des mois, car il ne fumait pas, ou plutôt ne fumait, on ne sait pourquoi, que dans les grandes occasions. « Je t'avais pourtant demandé de ne pas y aller. » Émile ne répondit pas. Se tournant vers sa mère, il dit « Personne n'est venu ?»« Personne » fit-elle avec une telle interrogation dans le regard que son fils ne put esquiver une réponse. « Je te raconterai cela tout à l'heure. » Puis, s'adressant à Jean-Noël, il ajouta « Tu voulais me voir ? comme si à présent les rôles étaient renversés et que c'était l'aîné qui harcelait sans cesse le cadet. « Naturellement que je veux te voir, » répliqua Jean-Noël qui se maîtrisait avec difficulté. « Qu'as-tu été faire avenue de Malakoff ?»« Je n'ai pas à te répondre. Tu n'as qu'à aller voir ta belle-mère. Elle te le dira elle-même. » « Je veux le savoir tout de suite. Il n'y a pas de secret, je suppose, entre Annie et toi. » Des gouttes de sueur couvraient le dessus de la lèvre supérieure de Jean-Noël. D'autres, plus grosses, irrégulièrement transparentes, comme des gouttes de miel, coulaient de temps à autre sur son front. Il était hors de lui. Non content d'avoir fait cette démarche dans le but de nuire, Émile refusait de lui en parler, cela sans aucun doute pour paraître avoir reçu des confidences d'Annie. « Je te répète, continua Émile, que je n'ai rien à te dire. » Jean-Noël se leva, prit son chapeau, se dirigea vers la porte. « Vous pouvez faire maintenant ce que vous voulez, » dit-il avant de disparaître. « Je n'y verrai aucun inconvénient. Par contre, je vous préviens qu'il est désormais inutile de compter sur moi. » Il descendit les quatre étages à la cadence du pas de gymnastique et gagna en toute hâte la place du Lion de Belfort. Il en voulait à sa mère, à son frère. Leur conduite lui semblait odieuse. À chaque instant, il se demandait ce qu'Annie avait bien pu dire de lui à Émile, et le silence de celui-ci lui semblait d'autant plus hostile qu'il paraissait provenir de ceux qu'une parfaite entente s'était établie entre eux. Mais au moment d'entrer dans une station de métro, il fut pris de remords. N'avait-il pas manqué de cœur en accablant, comme il venait de le faire, une mère âgée, un frère malade ? Il songea à ce qu'avait été leur vie. Ces pauvres gens avaient, au fond, bien des raisons d'être comme ils étaient. Au cours de leur existence, ils n'avaient jamais connu la plus petite joie. On les avait toujours cachés. Lui, Jean-Noël, n'avait-il pas eu une existence privilégiée si on la comparait à celle d'Émile, que personne n'avait guidé, dont la santé était délicate et qui, en même temps qu'il avait souffert de la pauvreté, avait assisté de loin à toutes les faveurs dont on avait comblé son frère aîné. Jean-Noël revint sur ses pas, remonta lentement les quatre étages qu'il avait descendus si vite. Il frappa à la porte. Personne ne répondit. La clé était dans la serrure. Il entra. Émile était couché sur son lit, les pieds en dehors, la tête cachée dans ses bras. Il pleurait, cependant qu'à côté de lui, sa mère lui parlait. Chaque fois qu'elle lui touchait l'épaule, il la repoussait d'une main. Elle le contemplait alors avec frayeur. « Regarde ce que tu as fait !» dit-elle à Jean-Noël, sans s'étonner que son fils fût revenu. À ce moment, Émile se redressa. « Pourquoi es-tu là ? » demanda-t-il avec douceur. « Elle l'a fait chasser par un domestique !» cria Madame Mercier à Jean-Noël. « C'est toi qui lui as dit de le faire !» Émile s'allongea de nouveau, sur le dos cette fois. Il était pâle, sa bouche était légèrement entr'ouverte, découvrant ses dents abîmées. Il n'y avait plus trace sur son visage, d'envie ni d'amertume. C'était celui d'un malade sans amour-propre, sans ambition et si lointain que Jean-Noël eut, durant un instant, le sentiment que ce frère dont il avait honte lui était supérieur par son élévation morale.